invité grand témoin de la deuxième partie de la Grande Table. Aujourd'hui est un économiste iconoclaste et engagé. L'ancien ministre des Finances du gouvernement de Tsipras continue à faire entendre sa voix, dissidente, dissonante, indépendante, au sein du concert européen, et tente aujourd'hui de rassembler à gauche en vue des prochaines élections européennes. Auteur de « Et les faibles subissent ce qu'ils doivent », Yanis Varoufakis sera le grand témoin de la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui à partir de 12h55. Mais d'abord, la réalisatrice prend le large avec un film Portrait de Romy Schneider, 3 jours à Quiberon, sortira en salle le 13 juin. Il a été remarqué et très bien accueilli à la dernière Berlinale où nous étions. La réalisatrice Emilia Teff est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Je ne reste qu'une seconde. J'avais tellement envie de t'embrasser. Et puis je voulais te demander quelque chose. Franz, jure-moi que tu m'aimes encore.
Non, je ne t'aime pas.
Et pourquoi donc ?
Bien parce que je suis délaissée par ma femme.
Dis-toi ? C'est moi qui suis délaissée par mon mari. Tu passes des journées enfermée dans ce bureau, à travailler. Je ne me souviens même plus si je suis mariée.
Où sont tes valises ?
Non, laisse, c'est pas la peine.
Quoi ?
Ce n'est pas la peine.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne pars pas ?
Je prends le train tout à l'heure. Laisse-moi. Va-t'en, laisse-moi.
Marianne.
Encore ! Viens ! Encore, allez, allez, allez !
Allez, dis que tu l'aimes, allez.
Je t'aime.
Encore. Encore. Encore, vas-y.
Comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos.
C'est celui-là.
S'il vous plaît.
Sissi et la piscine, Romy Schneider dans L'importance est d'aimer, un film d'Andrei Zulovski. Dans le film d'Emilia Teff, c'est au contraire une femme sans masque que l'on découvre. La comédienne a rangé son habit de scène pour 3 jours à Quiberon. En repos entre 2 tournages, Romy Schneider se laisse photographier et répond aux questions du journaliste allemand Emilia Teff. Bonjour.
Bonjour.
C'est à partir des photos de Robert Lebecq et de ce long entretien confession que Romy Schneider a accordé à l'époque au magazine Stern que vous avez réalisé votre film. Quelle période de sa vie raconte-t-il ? À quel moment est-on ?
On est en fait en 81, on est un an avant sa disparition. Et on est dans un moment où elle est quand même épuisée. Elle a fait un film après l'autre, elle est en divorce et elle a des dettes. Et elle est obligée donc... Et voilà, elle est épuisée physiquement, elle a besoin de se faire une santé, mais en fin de compte, d'un autre côté, elle est obligée de faire des films pour gagner de l'argent, et aussi parce que, elle le dit aussi dans l'interview, elle a besoin de ça. C'est sa drogue aussi, de faire des films. Et puis, à ce moment-là, donc, à Quiberon, comme on y était ce week-end d'ailleurs, dans ce Sofitel, qui n'a pas du tout changé, à part qu'on y mange mieux, il y a une partie, c'est pas une désintoxication, c'est pas un hôpital.
Une sorte de cure de thalasso.
C'est une cure de thalasso, où quand on est dans le diététique, c'est assez strict, on ne boit pas, on ne mange pas. Enfin, c'est presque la même chose, sauf que c'est un peu plus sympa maintenant. Et en fin de compte, voilà, elle a une amie qui est là, qui vient la soutenir, passer un moment, sans savoir qu'en fait, le Stern arrive, et parce qu'elle était amie avec Robert Lebecq, ce photographe, et donc le Stern en profite pour dire à Robert Debeck, ben, essayons d'avoir une interview, parce qu'elle donnait très, très, très peu d'interviews à la presse allemande. Je pense qu'elle donnait de toute manière très peu d'interviews, mais surtout à la presse allemande, parce que, ben, il a cassé. Il a cassé. Ils ont jamais fait cette émancipation. En fait, c'est, ben, que leur Sissi soit parti, pays voisin, pays peut-être encore un peu ennemi. Avec Alain Delon, elle soit plus jamais vraiment revenue.
Bande annonce de 3 jours à Quiberon.
Comment vous sentez-vous après 4 jours de repos, de soins et de régime?
J'ai faim. Dites-leur que je les retrouve à la réception.
Ach, das sind 2 Journalisten. Die sind vom Stern. Die machen morgen Interview und Fotos mit mir. Le beau.
La belle.
Frau Schneider, wie geht es Ihnen?
Wie geht es Ihnen?
Das ist reine Manipulation.
Du kühlst es einfach weiterleben oder weiter durchdrehen.
Vielleicht habe ich mir das alles ausgedacht, oder war das eine Szene aus einem Film, oder? Rumi?
Rumi?
Ce film, 3 jours à Quiberon, Émilie Attef, c'est 3 jours dans la vie de Romy Schneider. Ce n'est pas toute sa vie. Est-ce que pour autant, il répond pour vous quand même au code du biopic?
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était pas mon idée. On est venu à moi avec cette idée. C'était l'idée d'un producteur français, Denis Poncet, qui a d'ailleurs fait beaucoup de radio. Pour France Info, je crois, international. Et c'est son idée. Il était ami avec la comédienne Marie Boehme, qui, comme Romy, est aussi très francophile et vit dans le sud de la France depuis 11 ans. Et il n'arrivait pas à comprendre qu'elle joue pas Romy Schneider, parce qu'elle lui ressemble quand même assez. Et Marie, elle a eu maintes propositions en Allemagne de la jouer, et toujours des biopics, c'est-à-dire raconter toute une vie en 90 minutes. Elle, comme moi, je crois pas du tout dans ce format, à part peut-être quelques exceptions, mais raconter une vie par que des hauts et des bas, utilisant 4 acteurs qui jouent la petite fille à l'adolescent. Moi, j'ai toujours besoin un peu de temps en tant que spectatrice. Quand je vais au cinéma, j'ai besoin du temps pour ressentir, pour être avec. Et puis, je supporte pas qu'en 20 minutes, on change toujours de 15 ans, etc. Et donc, pour moi, c'était la seule possibilité. Je trouve qu'on raconte plus dans une scène de 20 minutes dans un bar, sur un personnage, que de sauter d'année. Et j'avais envie, en fait, de donner le moyen, le luxe peut-être au public de pouvoir être dans cette intimité. Moi, ce qui m'avait énormément touchée quand Denis Poncet est venu à moi, c'était, je connaissais pas non plus cette période, qui bronde, et de voir ces photos de Robert Lebecq. Parce que Robert Lebecq était un grand photographe de reportage. Il a fait beaucoup de politiciens, aussi en pays de guerre. Et donc ces photos, c'était pas du tout des photos d'une icône, même pas d'une grande actrice qui pose. C'était des photos d'une femme comme vous et moi, mi-quarantaine. Enfin, peut-être vous êtes mi-trentaine, mais mi-quarantaine.
Non, vous avez tout juste.
et on sentait cette femme en crise, ça se voyait physiquement, mais aussi une femme avec un besoin absolu, une envie de vie. qui veut danser.
En crise et en quête, en recherche de quelque chose.
Voilà,
en
recherche
d'un souffle de vie qui lui permette de tenir et continuer.
Voilà, et c'est ça qui m'a émue.
Et vous le dites, c'est à la fois, c'est pas tant au mythe qu'à la femme que vous vous intéressez dans ce film. Néanmoins, les deux restent inséparables. Vous montrez même comment ils s'alimentent, à la fois dans les bonheurs comme dans les côtés plus sombres de sa vie, dans cette dépression qu'elle vit aussi à ce moment-là, les doutes qui la dévorent. Trois jours dans cette vie de Romy Schneider, c'est un condensé aussi à travers cet entretien confession qu'elle va donner à ce journaliste du Stern de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle pourrait encore vivre. Quelle liberté vous avez pris, vous, avec ce matériau original, c'est-à-dire toutes ces photos qu'on vous a donné à voir et cette longue interview donnée au Stern, que je n'ai pas lue d'ailleurs. Est-ce qu'on y retrouve des mots
Oui, en fait, j'ai passé... C'était la première fois que je faisais un film sur quelqu'un de vivant. Donc j'ai quand même passé pas mal de temps à déjà faire mes recherches. J'ai toujours été touchée par les films de Romy Schneider. Enfin, j'ai passé mon enfance à l'étranger et mon adolescence en France. Donc j'ai grandi avec les films français. J'étais pas fan maintenant. D'ailleurs, je suis pas fan d'aucune actrice. Je suis fan d'acteurs dans un film spécial. Donc, j'ai fait des recherches. Surtout, j'ai parlé beaucoup à Robert Lebecq. Il est malheureusement décédé. Donc, il m'a donné toutes les pellicules. Et ça, c'était un trésor énorme. Et j'ai passé tellement de temps à me plonger dans ces images que plus tard, en écrivant le scénario, je voyais que noir et blanc. C'était même pas une idée intellectuelle du départ. Et pareil, j'ai beaucoup parlé à Michel Yeux, le journaliste, qui était très content d'être immortalisé, mais il savait pas ce que j'allais faire avec son personnage. Et après, j'ai tout mis de côté, et puis j'ai écrit une fiction. J'ai eu beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, mais c'est quand même d'après ces faits réels. C'est-à-dire, par exemple, l'amie, il y avait vraiment une amie. Elle, par contre, ne voulait pas être immortalisée. Et donc, mais elle m'a permis, parce que pour moi, cette amitié féminine entre Romy et cette amie était très importante. Je crois que je n'aurais même pas fait le film sans ce personnage. D'ailleurs, c'est un film sur Romy Schneider, mais c'est un film choral, c'est un quartet. Ça parle aussi de l'amitié, ça parle de la manipulation.
Et du désir des hommes aussi, hein,
oui,
à travers le regard et la caméra de ce photographe.
Oui, qui n'arrête pas, d'ailleurs, comme dans L'importance d'aimer, et qui n'arrête pas de la prendre, sauf qu'elle, elle est très ouverte à ça.
Et qui pense pouvoir la protéger tout en lui volant aussi son âme à travers ses photos.
Hein. Voilà, c'est ça.
Émilie Attef, quand on s'attache à raconter la vie ou un fragment de vie de quelqu'un qui a vraiment existé, on doit y aller avec une certaine rigueur, peut-être une honnêteté. Je ne sais pas quel est le terme que vous employeriez pour parler de votre démarche, de la sincérité avec laquelle vous avez souhaité y aller. Je vous propose d'écouter ce que dit Mathieu Amalric, réalisateur de Barbara, l'an passé sur ce sujet.
Voilà, c'était vraiment trouver un moyen pour peut-être raconter la naissance des chansons. Et si je pouvais suivre une actrice, donc ce personnage de Brigitte que joue Jeanne, essayant d'approcher des modes d'incarnation différents, ça pouvait être d'une manière classique, parce que j'adore les biopics aussi, j'adore ce que me font les biopics, donc parce que c'est comme un mensonge consenti, c'est la force du cinéma, on croit à tout. Donc elle pouvait avoir comme ça des fois le faux nez, des fois on se demandait tous les matins, voilà, avec Jeanne, quand est-ce que Barbara allait être la plus présente, allait apparaître le plus, quoi. Est-ce que c'est quand elle est Brigitte et que chez elle, pour travailler son rôle, elle se projette sur son mur des images d'archives et qu'elle tente comme ça d'attraper un geste qu'elle ferait. Est-ce que c'est quand elle part avec un technicien du tournage dans la nuit, comme le faisait Barbara, c'est-à-dire et que elle trouve un piano et puis que elle essaye Nantes et qu'elle est prise par les paroles. Vous voyez, c'était vraiment, ça me permettait, parce qu'il y avait le personnage d'une femme aujourd'hui, du coup, de raconter plein de choses de Barbara comme si elle vivait aujourd'hui, voilà.
Emilia Teff, est-ce que la fiction a tous les droits quand elle s'attache ou s'attaque à une personnalité qui a réellement existé?
Oui, le cinéma et l'art en général, moi je trouve, a tous les droits. Et maintenant, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je veux être honnête avec, je veux pas faire de la provoque, je veux pas faire, chacun peut le faire comme il sent, et, chaque artiste. Mais, moi, quand j'ai approché cette histoire, comme vous dites, c'est vraiment cette femme qui m'a touchée, et elle, ça part bien sûr aussi de sa relation avec l'Allemagne, le fait que l'Allemagne l'a jamais vraiment reconnue, et elle a été sa patrie d'amour, de cœur, était la France, le pays qui l'a faite, en fait, en tant qu'il a accepté en tant que femme, et puis l'Allemagne voulait la garder en tant que petite fille, et ça, bien sûr, ça, on sent ce désir de quand même être acceptée par sa patrie. Mais aussi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est elle a des problèmes très universels, et des problèmes que j'ai moi-même en étant mère et en étant artiste et en voulant être tout en même temps. Et puis, je le vois avec le public qui vient à nous dans les débats, et puis aussi il est sorti en Allemagne, on savait pas comment il allait être vu, mais on a plus de 250 000 entrées, ce qui est beaucoup en Allemagne, pays non cinéphile, et les gens viennent vers nous, et puis surtout même les jeunes personnes en disant ça me touche, et surtout ce qui me touche aussi, c'est qu'ils disent on a envie de voir les films français. Je me suis dit waouh, finalement. Mais je trouve que...
Mais vous savez aussi pourquoi je vous pose la question. Parce qu'on a entendu ici en France, cette semaine, encore l'ex-mari Daniel Biasini et la fille de Romy Schneider, Sarah Biasini, évoquer une image tronquée, fausse, elle, de sa mère, ce qu'elle peut percevoir dans le film, assez scandaleuse, et notamment sur la question de l'alcoolisme ou de l'alcool consommé par Romy Schneider à l'écran aussi dans votre film, les médicaments, la cigarette. La question de savoir si, oui ou non, Romy Schneider, à cette époque-là ou ce temps-là de la vie, était alcoolique. C'est vrai que dans le film, on la voit toujours un verre à la main. Se pose du coup la question de cette liberté d'expression, du fait que ça peut toucher ou en tout cas changer, travestir une image que ses proches avaient d'elle. Est-ce que là, il y avait pour vous une obligation de véracité dans l'image que vous en présentiez ?
Disons que moi je comprends que la fille de Romy Schneider soit je comprends que ça qu'elle soit touchée négativement qu'elle veuille pas voir sa mère comme ça, et puis que peut-être sa relation avec sa mère ou la mère qu'elle a connue n'était pas comme ça avec elle, ni peut-être avec les compagnons s'ils le disent. Moi, c'est un respect. Eux, ils ont vécu avec elle, et c'est quelque chose que je respecte. Et puis, ils peuvent aussi voir ce film en disant elle n'était pas comme ça. C'est vraiment leur droit, et je le comprends aussi parce que c'est sa mère. Mais c'est vraiment un film sur ces trois jours. Oui, c'est une œuvre de cinéma, et je prends la liberté, mais on a voulu aussi, Marie, dans l'interprétation, être aussi honnête. Et j'ai, comme
justement,
je disais,
vous prenez la liberté d'en rajouter, ou vous prenez la liberté d'exprimer ce que vous avez perçu à travers cet entretien et cette centaine de photos que vous avez pu voir.
Voilà, c'est exactement ça. C'est que j'essaie de la quintessence de ce que j'ai vu dans ces 600 photos. Il n'y avait pas de dialogue là-dedans. Ça, c'est la liberté des dialogues. Dans les discussions que j'ai eues. Et puis, c'est pas vrai qu'elle boit tout le temps dans le film. Tout le début, elle boit pas. Tout la fin, elle boit pas. Et c'est pas un film sur l'alcoolisme de Romy Schneider.
C'est un film sur les fantômes et les démons.
On n'en parle jamais de l'alcoolisme. Oui, c'est bien sûr que c'est inspiré des photos aussi. S'il y avait, si le Stern, elle était dans un endroit, c'était dans une diététique de Quiberon, pour se reposer, et là-bas, même si on y va aujourd'hui, on ne boit pas. Et puis le Stern lui amène de bouteilles de vin. Ils ont passé la nuit dans ce bar, toute la nuit. Et puis on regarde dans les photos, bien sûr, c'est aussi Michel Yox, il boit du café. Et pourquoi? Pourquoi il boit du café, lui? Parce qu'il veut être clair, et puis il est très très content qu'elle ne boit pas du café.
Parce qu'il veut la faire parler.
Il veut la faire parler. Mais l'important, pour moi, c'était de montrer aussi ses hauts et ses bas, et d'aller vers la lumière. C'est ça qui nous intéressait dans cette personnalité très 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 riche et troublée, et aussi de montrer une femme libre dans le bar. Elle doit rester dans cet hôtel, et non, elle s'en va. Elle a une envie folle de faire la fête, de partager avec l'autochtone, avec des jeunes adolescents, de leur donner les autographes, de danser avec un poète. Et d'ailleurs, moi j'ai été extrêmement inspirée par cette séquence, aussi merveilleusement aussi jouée par Denis Lavant, qui joue le poète dans ce film, mais aussi pour montrer cette envie de vivre, même si on dit, bon, elle boit, elle fume, mais moi je vois une femme qui est libre et qui a envie de vivre.
La réalisatrice de 3 jours à Quiberon, en salle mercredi prochain, est notre invitée jusqu'à 12h30, Émilie Attef. Il est 12h23 sur France Culture.
Hier soir, Romy Schneider, vous savez, la charmante, la toute charmante interprète de Sissi et de Kitty, est arrivée à Orly.
What do you intend to do in Paris? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire
now
à Paris?
I'm only a few days here, only private, and 10th June my picture Christine begins starting here in the studio. I don't know the name.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Malgré les mises en garde de son amie Hilde, dans votre film Émilie Attef, Romy Schneider ne veut pas tricher. Pour se protéger, elle se jette en pâture, une fois encore, avec un désir de sincérité, en acceptant de répondre à cet entretien du Stern. Elle avait une relation compliquée avec les médias, une presse perfide, inventive, mensongère, qui s'introduit fréquemment dans la vie privée. De cela, Romy Schneider a beaucoup souffert toute sa vie durant. Les images télé nous la montrent agressive, peu loquace et très nerveuse, racontait Françoise Arnoux et Françoise Gerbert, auteur d'une biographie sur elle. Écoutons-la s'exprimer à la radio.
Romy Schneider, il y a eu une période qui a été votre première période, c'était l'impératrice Sissi, vous aviez 17 ans.
Ah, c'est le passé aussi.
Est-ce que c'était une étiquette dont vous avez souffert, ou est-ce que vous êtes
content?
Oui,
à partir d'un certain moment, oui, absolument, parce qu'on ne voulait pas m'en sortir. Moi, oui, mais c'était difficile, mais j'ai quand même réussi, finalement.
Ça s'accrochait à votre peau?
Oui, un peu. J'en ai fait 3 et j'en voulais plus. Je voulais déjà plus faire le deuxième, mais je ne regrette pas.
Et à ce moment-là, toute l'Autriche...
Non, on a marre à partir d'un certain moment de jouer toujours la même chose.
Vous n'aimez pas les séries?
Non, du tout.
Et à ce moment-là, toute l'Autriche voulait vous protéger. Vous étiez un peu l'enfant chéri de là-bas.
Oui,
et
on
ne vous a pas pardonné, d'ailleurs, d'être parti.
Ah non, non, non. Ils n'aimaient pas tellement ça.
Aujourd'hui encore?
Non. Moi, je suis retournée là-bas, pas en Autriche, mais en Allemagne. J'ai ma vie là-bas. Mais je ne travaille pas là-bas. Je travaille ici.
Vous avez besoin d'être dirigée, protégée, aimée?
Qui pas?
Et plus précisément vous, peut-être, non?
Oh. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
Non, je vous pose la question.
Alors, je vous pose la question, pourquoi vous me posez cette question?
Parce que j'ai l'impression que vous êtes fragile au départ.
Peut-être.
Très organisée, mais avec des apparences fragiles. Dans le fond, c'est peut-être un jeu.
Ah non, j'aime pas les jeux.
Et on retrouve dans cette interview de Jacques Chancel pour Radioscopie des accents de l'interview du journaliste du Stern que vous mettez en fiction, Émilie Attef, aujourd'hui dans 3 jours à Quiberon. C'était une icône surexposée, dit d'elle Isabelle Giordano, dont elle s'appelait Romy, une femme à la réputation sulfureuse, adulée de tous, mais hantée par une insondable tristesse, écrit-elle, prédestinée au malheur. Il y a tout un mythe autour de Romy Schneider. Ce que confirme aussi Isabelle Giordano dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup cherché à alimenter le malheur, le mythe, qui continue à fasciner et qui est parfois aujourd'hui encore falsifié. La difficulté pour vous, c'est qu'en vous appuyant sur cette interview du Stern pour retracer ces 3 jours à Quiberon, vous passez forcément par un filtre, par l'image qu'elle veut bien donner d'elle dans les médias ou en tout cas dans ce rapport compliqué que vous évoquiez qu'elle entretenait avec les journalistes. Donc ce n'est peut-être pas la vraie Romy Schneider, mais c'est une Romy Schneider dans ce rapport presque de confrontation ou d'angoisse qu'elle avait avec les médias et la presse allemande.
Oui, et puis la vraie Romy Schneider, j'ai vraiment pas fait un documentaire. Je voulais faire celle que moi je trouvais la vraie, mais c'est vraiment subjectif. C'est du cinéma, mais cette interview-là, c'est incroyable. Quand je pense, je me demande si on pourrait faire une interview comme ça avec un acteur, lui demander, oui, vous voulez être aimé, entouré, enfin c'est incroyable. Et puis la même chose à Michael York, je lui demandais, est-ce que tu poserais ces questions-là, madone ou pute? Il lui a posé ça, c'est incroyable. Mais je trouvais que il y a une chose avec Romy Schneider et aussi dans cette interview du Stern, c'est qu'elle était absolument authentique et impulsive. Elle montrait pas ça, Romy Schneider, je veux être vue comme ça. C'est vraiment, et c'est pour ça aussi Hilde, qui est un peu notre regard en tant que, c'était un peu mon alter ego, et puis l'alter ego, je pense, du public, veut la protéger, mais elle veut pas être protégée à la fin, et en fin de compte, c'est pas une victime. Elle veut tout raconter, elle veut dire au public, même si c'est peut-être pas le bon chemin, elle veut dire au lecteur allemand, écoutez, je suis pas la gentille Sissi en paillettes et robe de princesse, je suis une femme malheureuse de 42 ans, je m'appelle Romy Schneider.
Mais on est aussi en 2018 et on était alors en 1981, peut-être qu'avec les années aussi, les acteurs comme les actrices ont appris à se protéger dans cette société du tout image, dans cette société aussi du spectacle, et que cette interview ou ces interviews seraient effectivement plus possibles aujourd'hui. Le choix du noir et blanc, Émilie Attef, pour vous, il y a un sentiment d'éternité qui s'en dégage. Romy Schneider, elle est d'une certaine manière éternelle, mais est-ce qu'elle est encore une icône moderne pour vous?
Absolument. Déjà, elle était extrêmement moderne pour son temps, mais comme je vous dis, il y a tellement de personnes, femmes et d'hommes aussi, qui se retrouvent aussi dans ces dilemmes qu'elle avait aujourd'hui. Et puis cette liberté de cette femme qui fait peut-être pas toujours les choses comme il faut les faire, ni pour se protéger, ni pour être, mais elle a fait, et dans toute son être. Et moi, je trouve que c'est un personnage très moderne.
Lundi sera remis le prix Romy Schneider qui récompense les espoirs du cinéma français. Est-ce qu'il y a une nouvelle Romy pour vous ici?
Est-ce qu'il y a une Romy du tout dans le monde? On en a parlé, c'est difficile. Elle dégageait quelques... Bon, il y a beaucoup d'actrices que j'adore, mais Romy, j'arrive pas à trouver, non.
C'est votre 4e film à vous, après Tu, moi, L'étranger en moi et Emily Zoué, Émilie Attef. 3 jours à Quiberon sortira en salle mercredi. Merci d'être venue nous en parler.
Merci.
À noter deux autres actualités sur des actrices mythiques. Un documentaire sur la vamp Hedy Lamarr, sorti en salle cette semaine. Hedy Lamarr, From Extase to Wi-Fi, parce qu'elle avait aussi ses qualités, ses dons de scientifique, inventrice d'un système de transmission utilisé encore aujourd'hui pour le Wi-Fi. Une vie, une œuvre sur France Culture lui était consacrée l'an passé, à réécouter sur notre site. Et puis une soirée Ava Gardner sur Arte, lundi 25 juillet, avec notamment Pandora, puis Eva. On ne va pas faire la compétition des grandes icônes, mais Romy Schneider en restera assurément une. Et vous lui rendez hommage aussi dans ce film 3 jours à Quiberon. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Émilie Attef.